Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les nouvelles routes de la migration. En Grèce, les arrivées par mer sont désormais bloquées depuis que l'accord entre l'Union européenne et la Turquie impose à Ankara de retenir les réfugiés sur son territoire. C'est donc aussi par voie de terre que les victimes de la guerre en Syrie tentent de regagner l'Europe. 3600 personnes contre environ 3000 par la voie maritime, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies. Depuis la Turquie, les demandeurs d'asile doivent franchir le fleuve Evros avant de gagner la ville grecque de Thessalonique. Mais les camps sont désormais bondés et le découragement est palpable, comme l'a constaté sur place notre reporter Charlotte Stivenard.
À l'entrée du camp de Diavata, près de Thessalonique, la police contrôle les allées et venues. Le directeur du camp, qui dépend du ministère de l'Immigration, ne donnera ni interview ni chiffres, mais la surpopulation est visible. En plus des conteneurs aménagés, il y a de nombreuses tentes de camping, comme celle de Salah Bozan, 26 ans. Ce Kurde syrien originaire de Kobané a passé la frontière gréco-turque fin mars avec sa femme, leurs deux jeunes enfants et sa mère. Ils racontent leur première tentative.
Nous avons payé un premier passeur qui nous a emmenés à 3 km de la rivière. Il a ensuite fallu marcher dans la boue et l'humidité. C'était très dur. Ça nous a pris 6 heures pour arriver jusqu'à la rivière. Elle était en crue et nous étions tellement fatigués. On n'a pas pu passer. Pendant 2 semaines, toute la famille a eu du sang dans les urines. On a dû retourner à Istanbul.
We come back to Istanbul again.
La deuxième tentative sera la bonne. Ils se rendent alors dans le camp de Diavata, non loin de Thessalonique, pour être hébergés le temps de faire leur demande d'asile. Il y a de nombreux Kurdes ici. Salah Bozan nous fait rencontrer Ahmed Hamo, originaire de Afrin, en Syrie. Il a passé 5 ans en Turquie, espérant être relocalisé aux États-Unis ou au Canada, grâce à un programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sans succès. Il s'est décidé à partir après le début des bombardements turcs au Kurdistan syrien.
À cette époque, à Istanbul, quand la crise à Afrin a débuté, notre situation s'est dégradée. Ils ont commencé à tout contrôler. Avant, j'écrivais sur Facebook. À cette époque, j'ai arrêté. La police a commencé à chercher partout des gens d'Afrin ou des Kurdes. Il n'y avait plus d'espoir. J'ai senti que je devais quitter la Turquie.
Il dit avoir choisi la voie terrestre pour ces deux raisons.
Tout d'abord, la mer est dangereuse. S'il y a un problème, il n'y a rien à faire, vous mourrez. La seconde raison, c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est plus cher. Pour l'Evros, j'ai trouvé quelqu'un qui ne prenait pas cher pour traverser la rivière. Chaque personne a payé $250.
Salah Bozan dit, lui, avoir payé 1000 euros par personne. Aucun d'eux ne mentionne ce qui est dans toutes les têtes. L'accord Union européenne-Turquie qui permet de renvoyer réfugiés et migrants syriens en Turquie ne s'applique pas sur la frontière terrestre. Pour Lynn Weide, du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le constat est sans appel.
Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des gens viennent de Syrie, et un certain nombre d'entre eux viennent même d'Afrin. Si aucune solution n'est trouvée pour la Syrie, rien ne va s'arrêter. Cela ne change rien si on met des clôtures, si les frontières sont fermées. Ce n'est pas une solution. Une solution doit être trouvée dans le pays, en Syrie, une solution politique. Et il y a aussi un besoin de soutien plus important pour les pays frontaliers, car beaucoup de gens qui arrivent ont essayé de refaire leur vie dans les pays voisins. Ils ont essayé en Irak, ils essayent en Turquie, au Liban ou en Jordanie. Ce sont tous des pays qui accueillent un nombre énorme de réfugiés de Syrie. Mais s'il n'y a pas de soutien et si on ne trouve pas de solution, les gens sont forcés de poursuivre leur fuite.
Au commissariat de police centrale de Thessalonique, on explique que cela nourrit les réseaux de passeurs. Dans la région, ils trouvent toujours de nouvelles techniques, comme le montrent les dernières arrestations, explique le chef de la direction des étrangers, Thomas Fevgras.
Les passeurs travaillent sur deux niveaux. Tout d'abord, on a principalement des petites organisations. Mais on a eu aussi beaucoup de cas d'organisations criminelles qui fonctionnent de manière pyramidale. Dans ces cas, ça demande beaucoup de travail, des mois de recherche. On a eu un exemple cette année, avec l'arrestation de 11 personnes qui utilisaient des véhicules de luxe puissants, des cylindrés de plus de 6000 cm3 qui transportaient des gens de l'Evros vers le continent.
Il y a deux ans, la ville de Thessalonique avait déjà dû accueillir des réfugiés et migrants expulsés du camp d'Idoménie, à la frontière avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Aujourd'hui, si officiellement la frontière avec ce pays est fermée, et donc la route des Balkans aussi, Yanis Boutaris, le maire, explique que personne n'est dupe.
La situation s'est aggravée dans la mesure où la route qui passe par l'Evros est ouverte de fait. Le long du fleuve, il y a bien des clôtures jusqu'en haut, il y a aussi Frontex, des gardes-frontières européens, mais malgré ces moyens, ils n'ont pas réussi à stopper les flux. Il y a des passages, tout le monde les connaît. La police les envoie à Thessalonique et pas à Serres par exemple, parce qu'ils savent que là-bas, il y a des trafiquants d'êtres humains qui leur disent que pour 500 euros, ils peuvent leur faire passer la frontière avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à partir de là poursuivre vers le nord.
Pour 2019, la Commission européenne a proposé de prolonger son accord avec la Turquie et de lui verser 1,5 milliard d'euros en plus pour continuer à fournir de la nourriture, de l'éducation et des logements aux réfugiés sur son territoire. Un accord qui, semble-t-il, pousse désormais les réfugiés à gagner l'Europe par la voie terrestre.
À droite, toute en Autriche après l'élection du conservateur Sébastien Kurz à la chancellerie en coalition avec le parti d'extrême droite du FPÖ, c'est la mairie de Vienne qui opère un léger mais significatif glissement vers la droite. Le nouveau maire, Michael Ludwig, est considéré comme un tenant de l'aile plus conservatrice du parti social-démocrate. Il prend la relève après le départ à la retraite de Michael Heupel qui a incarné pendant 24 ans, Vienne la Rouge, son portrait est signé Céline Béal.
Moustache grise, air jovial et embonpoint. C'est ce qui caractérise le maire que les Viennois connaissent depuis 24 ans. Et aussi avec une certaine propension à lever le coude pour un petit Spritzwein. Pour beaucoup, c'est même le seul maire qu'ils aient jamais connu. En un quart de siècle, Michael Heupel a su se construire une image populaire. Pourtant, à ses débuts, certains ont douté que cet intellectuel, titulaire d'un doctorat en biologie, y parviendrait. Son astuce a peut-être été ses fameuses phrases à l'emporte-pièce, débitées en dialecte local. Il veut moderniser la culture dans l'ancienne capitale impériale. Vienne, il ne faut pas qu'on puisse la confondre avec son cimetière central, dit-il. En 2008, il lance le fameux « Si vous n'envoyez pas votre fille à l'école, je vous arracherai les oreilles ». Adressé à un père de famille d'origine turque. Et puis l'année dernière, il s'énerve face au refus du gouvernement fédéral d'accueillir des quotas de réfugiés envoyés par l'Europe. Et il réplique « Mais je vous les prends, moi, ces 50 réfugiés, et je vous les mets tout de suite à Otakring, c'est-à-dire au 16e arrondissement viennois, où vivent beaucoup d'immigrés. » Ces dernières années, l'extrême droite a séduit de plus en plus d'ouvriers, ce qui a élimé la base électorale de la social-démocratie, autrefois toute puissante dans Vienne la Rouge, comme on disait. Michael Heupel a pourtant conservé sa majorité en mobilisant contre le FPE, ce qui lui vaut d'être considéré comme une figure de l'aile gauche de son parti. Son retrait aujourd'hui modifie les équilibres. Que fera son successeur, Michael Ludwig, lorsque la question se posera d'une éventuelle coalition avec le parti d'extrême droite ? Les temps changent et le nouveau maire est déjà présenté par les médias comme plus proche de la soi-disant aile droite du parti.
C'est C'est une première dans les annales judiciaires britanniques. Une mère de famille a été condamnée la semaine dernière à 4 ans et demi de prison à Birmingham pour avoir marié sa fille de force au Pakistan. Pour en parler, on retrouve Muriel Delcroix, une de nos correspondantes à Londres. Muriel, le calvaire de la jeune fille avait commencé en 2011.
Oui, elle n'avait alors que 13 ans quand l'homme auquel elle avait été promise et qui avait 16 ans de plus qu'elle l'avait défloré au terme d'un contrat de mariage décidé au Pakistan. La fillette avait alors dû subir un avortement à son retour au Royaume-Uni et son cas avait été signalé à l'époque par le médecin aux services sociaux qui n'avait pourtant pas donné suite. En 2016, la mère de la jeune fille, âgée alors de 17 ans, a ensuite prétexté des vacances en famille pour la convaincre de se rendre à nouveau au Pakistan. Une fois là-bas et toujours sous la pression de sa mère, l'adolescente a dû signer les papiers du mariage qui a été organisé dans la foulée en septembre. La jeune fille a néanmoins réussi à alerter des amis au Royaume-Uni qui ont à leur tour prévenu les services sociaux et la police de Birmingham. Cette fois, les autorités britanniques l'ont alors aidée à rentrer en Grande-Bretagne et ont arrêté sa mère à son retour.
Et Muriel, est-ce que les autorités britanniques savent combien de personnes sont mariées de force par leur famille ?
Alors, d'après les derniers chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, près de 1200 mariages forcés ont été recensés en 2017, mais en réalité, selon les experts, ce nombre ne représente en fait qu'une fraction des unions forcées. Ils estiment que quelques 8000 jeunes femmes pourraient être mariées contre leur gré chaque année au Royaume-Uni, une pratique qui concerne surtout des familles originaires du Pakistan, du Bangladesh et d'Inde, et ce, malgré la loi qui a été votée en 2014 sous l'ancien Premier ministre conservateur David Cameron, qui avait estimé que le mariage forcé n'était rien d'autre que de l'esclavage. La loi fait malgré tout la différence entre mariage forcé, sans consentement donc, et mariage arrangé.
Cette loi, Muriel, existe donc depuis 4 ans. Or, c'est la première fois que quelqu'un est condamné. Pourquoi est-ce si difficile ?
C'est difficile parce que la police doit en fait la plupart du temps convaincre des membres de la famille incriminée de témoigner les uns contre les autres, ce qu'ils ne veulent pas faire. Et c'est d'ailleurs cette loyauté qui décourage les victimes elles-mêmes ou leurs proches d'alerter les autorités ou les services sociaux. C'est pour ça que cette condamnation est extrêmement significative. C'est un message fort adressé aux familles qui veulent imposer cette pratique, qui rappelle qu'obliger quelqu'un à se marier contre sa volonté est illégal et puni par une peine de prison conséquente dans ce pays. Les associations et les autorités espèrent aussi que les victimes qui sont actuellement en souffrance et qui gardent le silence de peur de subir des représailles vont être encouragées à demander de l'aide, à médiatiser aussi le traumatisme qu'engendre cette pratique et à terme la faire disparaître.
Merci Muriel Delcroix à Londres. Il occupe une place très spéciale dans le cœur des Stambouliotes. Le tramway rouge qui remonte l'avenue Istiklal jusqu'à la place Taksim aura bientôt 105 ans. Un siècle de bons et loyaux services dans le quartier bouillonnant de Taksim à Istanbul. Anne Andlauer a fait le trajet aux côtés du conducteur, le Watman comme on l'appelle, lui aussi incontournable.
Son pied droit est en alerte au-dessus du petit bouton qui fait sonner la cloche. Son regard va et vient sans cesse, déraille au bas-côté d'un rétroviseur à l'autre. Et puis soudain, au milieu d'une avenue bondée, une poussette a surgi sur la voie ferrée. Le tram s'est arrêté à temps, Yacine n'a pas scié. Depuis bientôt 4 ans qu'il monte et descend l'avenue Istiklal aux commandes de ce tramway rouge, il s'est habitué aux surprises.
Notre gros problème ces dernières années, ce sont les écouteurs, les téléphones et les écouteurs. Le nez sur le téléphone, les piétons ne nous voient pas et ceux qui ont des écouteurs ne nous entendent pas, même si on sonne la cloche. Quand ils surgissent, on est obligé d'utiliser le frein à main. Mais je n'aime pas ça, c'est brusque, ça gêne les passagers.
Yacine Bezguine, 37 ans, n'est pas chauffeur ou conducteur, il est vatman. Ils ne sont que 12 en Turquie, autorisés à piloter ce tramway tout en bois, verni, surnommé Nostalgie. Yacine, autrefois conducteur de bus, a passé un concours et suivi 6 mois de formation pour maîtriser la mécanique du vénérable tramway rouge, qui n'a pas changé d'une manette en 104 années de service.
Au-dessus de nous, vous voyez le câble électrique. Il transmet une énergie de 600 volts dans ce boîtier à manivelle. C'est un boîtier à 9 vitesses. Chaque coup de manivelle vers la droite augmente la vitesse. À l'inverse, quand on pousse vers la gauche, jusqu'à 5 fois on sollicite le système électrique de freinage à patins et le tramway ralenti. Ou alors, avec ce volant à droite, vous serrez les tampons et ça immobilise le véhicule. Nous utilisons encore le système d'origine, le même qu'il y a un siècle. Place Taksim, dernier arrêt.
Chaque jour, Yassine enfile son costume bleu réglementaire et l'allure fringante s'installe aux commandes. De 7h à 14h30 ou de 14h30 à 23h, toujours debout, il conduit les voyageurs de la place Taksim à celle de Tunnel, puis en sens inverse, sur les 1870 mètres de l'avenue piétonne Istiklal. À chaque nouvel arrêt, Yassine fait coulisser une petite grille noire et fait monter les passagers, 2500 chaque jour en moyenne, les gratifiant d'un mot de bienvenue. Unique concession à la modernité, un gros boîtier orange où les voyageurs valident leur carte de transport. L'après-midi, ce sont très souvent des touristes, mais le matin, Yassine accueille surtout des étudiants et des employés du quartier. Et parmi eux, des visages familiers.
Il y a ces lycéens que je transportais il y a 4 ans et qui vont maintenant à l'université. Il y a le personnel consulaire, puisque nous sommes dans le quartier des consulats. Il y a les ouvriers des ateliers du coin et les employés des associations, notamment de l'Union des barreaux d'Istanbul, située au bout de l'avenue. Par exemple, je connais la plupart des gens qui montent dans le tram de 7h25 la semaine. Il y a entre 20 et 50 passagers que je vois tous les jours.
Cengiz Sözkan, un retraité, est l'un de ses habitués.
Je prends ce tramway depuis les années 60. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi beau, il roule toujours aussi bien et les Wattman sont toujours aussi aimables. Autrefois, j'étais chef de salon au Opéra Palace. J'y montais tous les jours pour aller au travail. Je le prenais aussi pour aller m'occuper des cocktails dans les jardins du consulat de France au tout début de l'avenue. Je suis heureux qu'il existe encore. Il est comme un bijou en or dont la valeur augmente avec l'âge.
Ali Ousta, un autre passager, est aussi attaché au nostalgique tramway.
Normalement, je remonte l'avenue à pied pour laisser la place aux personnes âgées qui ont besoin de ce transport. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait de la place, donc j'ai sauté dedans, par pure nostalgie. Je prends souvent les transports en commun, mais ce tramway occupe une place spéciale. C'est très agréable d'observer l'avenue depuis ses fauteuils en cuir, de lire tranquillement son journal. Je ne voudrais pas qu'il mette un tramway moderne à la place. Celui-là suffit largement.
Pour Ulke Bayram, en revanche, ce voyage est une première. Cette Turque qui vit à Hambourg, en Allemagne, est en vacances à Istanbul avec son époux et ses 3 enfants.
C'est la 4e fois que nous venons à Istanbul et à chaque fois nous avions manqué le tramway. Nous voulions absolument y monter cette fois-ci et je ne suis pas déçue. J'aime le fait que les fenêtres puissent s'ouvrir contrairement au tramway moderne. Là, on respire l'air frais, on profite de la vue et on a l'impression de voyager dans le temps.
Odakule, qui veut descendre? Odakule.
Yassine est un Wattman heureux et amoureux de son vieux tram qu'il dit considérer comme son 4e enfant.
Les gens viennent sur l'avenue Istiklal pour se promener, pour s'amuser, pour manger, faire des emplettes, faire des visites. Ils viennent profiter de l'endroit et dépenser de l'argent. Moi, j'en profite tout en gagnant ma vie. Et en plus, j'apparais sur les photos de vacances de tous les touristes à Istanbul. Ce tramway, c'est un peu mon enfant chéri. C'est un symbole de la Turquie.
Un symbole qu'on retrouve imprimé sur des t-shirts, des horloges, des affiches et même des tables à repasser vendues un peu partout en Turquie.
L'année dernière, à cause de travaux sur l'avenue, il n'a pas roulé pendant 11 mois. L'avenue n'était plus la même sans le son de sa cloche. Chaque jour, les gens nous demandaient quand il reprendrait du service. Ce tram, pour moi et pour l'avenue, est comme la prunelle des yeux.
Yassine sait qu'il ne finira pas sa carrière à bord du petit tramway rouge. Trop fatigant, dit-il, au-delà de 50 ans. Il espère former d'ici là d'autres générations de Wattman pour que le nostalgique tramway ne prenne jamais sa retraite. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.